France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Donner vie à la terre pour représenter la chair et reproduire là un geste ancestral, c'est le travail de la plasticienne Prune Nourry. Sa nouvelle exposition Vénus se tient en ce moment à Paris. Elle sera mon invitée à partir de 13h. Mais en attendant, c'est l'heure du débat critique avec deux films que tout oppose, sur le papier en tout cas. Mémoire d'un escargot, un film d'animation du cinéaste australien Adam Elliott, et le dossier Mal d'Aurore de Fabrice Duvels, librement inspiré de l'affaire du trou. Voilà pour le programme. Bonjour à toutes et à tous et bonjour aussi à nos critiques ici présents. Antoine Guillot, producteur de l'émission Plan Large le samedi de 14 à 15 heures sur France Culture.
Bonjour.
Bonjour. Thierry Chaise, directeur de la rédaction du magazine Première.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux. Si je dis donc stop motion et réalisateur australien, on imagine assez volontiers, de façon totalement cliché d'ailleurs, un film d'animation pour enfants ultra coloré et loufoque. Bon, eh bien, Mémoire d'un escargot en est très loin. C'est le deuxième long métrage d'Adam Elliott, qui avait déjà frappé un grand coup avec Marie et Max en 2009, film qui lui avait valu le cristal au festival du film d'animation d'Annecy. Il a d'ailleurs à nouveau remporté ce prix avec ses Mémoires d'un escargot qui nous emmène aux côtés de Grace Puddle, dont la vie est une succession de drames et d'humiliations jusqu'à sa rencontre avec Pinky, une vieille dame indigne qui dévore la vie. On commence avec un avis rapide de l'un et de l'autre et c'est d'abord à vous Thierry Chaise.
Moi j'ai adoré, voilà. Moi j'étais un grand inconditionnel de Marie et Max, qui est pour moi un des plus beaux films d'animation de ces dernières années. Je me demandais si on aura un jour des nouvelles de ce Adam Elliott, puisque on peut dire qu'il tourne en prenant son temps, en tous les cas ses longs métrages, et j'ai été conquis par cette capacité à faire naître de l'humour au sein des choses les plus tragiques possibles.
Antoine Guillot.
Moi, je dirais que c'est un film qui est effectivement à la fois très original et très australien. On pourra revenir sur le côté Aussie de ce film. Je suis pas très très fan en revanche ni de l'esthétique ni de l'animation, que je trouve un rien sommaire, et cette tendance quand même à se complaire dans la noirceur et le sordide qui est le point commun des deux films dont nous parlons aujourd'hui, que je trouve un peu facile.
Alors avant de continuer à discuter, on va écouter un petit peu la bande-annonce de Mémoire d'un escargot.
Papa disait que l'enfance, c'est comme quand tu as trop bu.
Alouette.
Tout le monde se souvient de ce que tu as fait. Sauf toi.
Alouette.
Mais je me souviens de tout.
Il était beau.
Alouette, gentil alouette.
Bête de lièvre.
Mon frère jumeau. On avait deux âmes, mais un seul cœur. Un jour, les services sociaux sont venus nous chercher. C'est la dernière fois que j'ai vu mon frère.
Cher Gracie, mes nouveaux parents sont bizarres. Je viendrai te chercher. Je traverserai le grand désert brûlant.
Pourquoi tu es déguisée en fourmi ?
Je suis un escargot.
Sympa la coupe ! Allons pas !
Petit doigt a été ma première véritable amie.
Gilbert !
Viens mon pote.
Grace, le moment est venu de sortir de ta coquille.
Salopard !
La vie est une tapisserie magnifique.
Bravo.
Mais on ne peut la vivre qu'en marche avant.
Mémoire d'un escargot d'Adam Elliott. Alors Thierry Chaise, il y a de l'humour dans cette noirceur ?
Malgré tout. Alors, et pourtant, il y a de la noirceur, et il y a de la noirceur qui est presque symbolisée physiquement par la fameuse Grace Puddle, quand on la voit pour la première fois, première scène où en plus quelqu'un meurt à ses côtés et on va retracer sa vie. Elle a les yeux tombants, cernés, un teint vraiment blafard. Elle a eu un bec de lièvre toute petite et on voit que ça a été recousu. Et puis, il va... Quand on retrace sa vie, il y a vraiment plus pire, je dirais. Est-ce que c'est possible ? C'est-à-dire que sa mère est morte, son père est mort, elle a été séparée de son frère jumeau. Et les deux vont vivre dans des familles pour le moins on va dire, particulière. Elle, vraiment, elle collectionne les escargots. Et l'escargot, qu'est-ce que c'est sinon l'animal le plus introverti, en fait, de tous. Donc, il y a ce côté-là. Et vraiment, on va, en effet, jusqu'au bout d'une certaine... On se dit, mais c'est pas possible, cette noirceur. Mais ce qui est... Et c'était déjà le cas dans Marie et Max. Moi, ce que je trouve, en tous les cas, réussi, c'est cette capacité qu'à un moment, l'humour surgisse. Alors, l'humour va surgir avec, en effet, cette vieille dame indigne, la seule touche de couleur, d'ailleurs, avec ses lunettes rouges de tout le monde. Et puis, l'humour surgisse. La situation, c'est qu'à un moment, c'est tellement trop qu'on est obligé de s'en sortir. Mais je trouve que le film accompagne ça et que, voilà, moi, j'ai en effet été conquis par la manière dont ça peut me faire pleurer. Et j'ai soufflé parce que ça peut aussi me faire sourire, voire rire, et qu'il y a des côtés totalement absurdes. Et je pense que c'est ça, voilà, ça joue vraiment là-dessus, et qu'Adam Elliott construit aussi ça, c'était déjà le cas de Marie et Max, mais totalement là-dessus. Ouais.
Antoine Guillaume, alors il est très australien ce film.
Oui, ça.
Oui, mais c'est-à-dire que si on connaît un peu les côtés les plus trash du cinéma australien, que ce soit la Housploitation dans les années 70, qu'elle est vraiment cherchée chez les rednecks du coin, les aspects les plus glauques de la mentalité nationale, mais aussi des films, moi j'ai pensé beaucoup à Bad Boy Bubby, un film de Rolf Dehaere sur un enfant, un grand enfant, puisqu'en fait il avait été séquestré dans sa cave jusqu'à ses 30 ans et qui découvrait le monde ensuite. Et c'est vrai qu'il y a ce côté quand même très très bizarre, très Dickens, poussé vraiment au dernier degré. On a l'impression que la société australienne, c'est ce qu'il y avait de pire dans la société anglaise du 19e siècle, poussé à l'extrême degré. Et c'est vrai que le film fonctionne beaucoup par cette accumulation d'avanies qui tombe sur cette pauvre héroïne qui va passer vraiment par tous les états horribles de la vie, en se disant qu'effectivement, alors de temps en temps on réagit par l'humour parce qu'on se dit c'est pas possible qu'il y en ait autant dessus, donc ça devient presque gaguesque, mais je sais même pas si c'est volontaire de la part du réalisateur, qui a besoin en fait de charger le tableau pour que de temps en temps la moindre étincelle d'humanité ait l'air d'une épiphanie absolue, et en se disant qu'il faut beaucoup souffrir pour de temps en temps trouver la vie agréable, simplement voilà, par un petit cadeau qu'elle vous fait. Résultat, c'est assez chargé, y compris à l'image. Hein. Le film commence comme ça par une accumulation totale, un fourbi, vous savez, comme quand vous arrivez chez ces vieilles personnes qui ont accumulé des choses toute leur vie, puis il va falloir débarrasser, on ne trouve que des choses inutiles dont on se demande bien ce qu'elles peuvent faire là. C'est le syndrome de Diogène qui est, là encore, la métaphore pas très légère de cette jeune femme qui va se protéger, comme la fameuse coquille, de tout un tas d'amoncellements pour la protéger de la vie. Le problème, c'est que tout ça, il faut l'animer. Mmh. Et c'est là que, pour moi, ça pêche le plus. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette émotion dans le stop-motion, dans l'animation en volume, image par image, de sentir la main de l'animateur, presque son empreinte digitale sur cette argile qui est utilisée. Sauf que ça demande beaucoup de moyens pour qu'il y ait de la vie dedans. Et là, c'est très artisanal. C'est un cinéma qui, volontairement, ne veut pas rentrer dans l'industrie. Donc, ça se fait à 7 personnes sur 10 ans. Mais ça échoue souvent à créer réellement de la vie dans ce qu'on voit. Ce qui donne des tableaux qui sont souvent assez statiques. Il y a un rythme qui est celui de l'escargot du titre. C'est-à-dire que ça avance vraiment comme un gastéropode, presque volontairement. Non, mais c'est assez intéressant de voir un film d'animation qui refuse la frénésie cartoonesque générale. Sauf que il faudrait qu'il y ait quand même un peu plus de vie, plus que le sentiment de presque amoureux de la part du réalisateur, de filmer ce qu'il a modelé de ses mains, dessiné patiemment, je crois, pendant le Covid. Il a fait tout ça en imaginant son film à ce moment-là. Et c'est un peu mon grand souci. Or, ça commençait pas mal, parce qu'après, bon, ce plan très saturé du début, un film qui commence par le râle d'agonie d'une vieille dame qui crie les patates, ça donne envie de voir, mais on sent qu'il y a quand même presque une autocomplaisance, c'est-à-dire, allez, je vais en rajouter encore un peu, jusqu'à un happy end qu'on va pas dévoiler, mais enfin, qui est vraiment un deus ex machina, qu'on n'oserait pas écrire tellement c'est grossier, qui fait que le film échoue quand même, il me semble, à vraiment aller au bout de son entreprise.
Thierry ?
Moi, je suis pas d'accord. En tout cas, moi, j'ai marché. Je trouve que dès le départ, justement, l'idée de cet humour, quelqu'un qui meurt en criant patate, ça pose quand même quelque chose. On se dit qu'on va être dans un univers qui va pas être que franchement glauque. En fait, je trouve que le film dialogue totalement avec Marie et Max, et c'est, qui m'avait beaucoup plu, notamment dans la place laissée à la relation épistolaire, qui était vraiment centrale, totalement dans le cas de Marie et Max. Rappelons-le, c'était un échange épistolaire entre une petite fille australienne et un juif new-yorkais, pas vieux, obèse de quarantaine d'années, de personnages qui déjà, on va dire que la vie ne les avait pas gâtés. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui poursuit dans ce sillon-là. Moi, ce que j'aime, c'est juste...
Là, elle échange avec son frère.
Avec son frère, mais c'est toujours, ça a toujours, malgré tout, une importance, même s'il y a plus de vie autour. Moi, j'aime, en fait, voir d'un seul coup un film qui ne s'adresse pas à une cible particulière, parce que c'est pas un film pour enfants, c'est pas non plus totalement un film pour adultes, à cause de tout ce que dit Antoine. Par moment, c'est un peu grossier. J'aime ce rythme parce que d'un coup, ça me propose aussi autre chose. Je trouve qu'il a une singularité, même si on peut trouver des liens. Je pense que quand on est français, on pense au premier film de Jeunet et Caro, dans cette accumulation, dans les phrases qu'on a entendues.
Dominique Pinon joue le rôle du père.
Ben voilà. Et c'est, non, mais il y a vraiment quelque chose. Et en même temps, moi, je trouve que dans cette... Moi, j'ai été attaché à ça, à ce personnage début. Je trouve que peut-être cette animation un peu, en effet, moins virevoltante qu'ailleurs va très bien avec l'histoire qui est racontée, et avec les phrases qu'on y lit, parce que ce sont des phrases qui, en effet, quand on j'en ai retenu une qui est parfois les larmes ne coulent pas parce qu'elles ont trop peur. On peut trouver ça totalement, mais une phrase d'un élève de sixième, et en même temps, dans la bouche de ce personnage, je trouve qu'il y a une cohérence. Voilà, ce qui me plaît, c'est la cohérence totale de ce projet, et qui fait que vraiment, moi, j'ai marché. Mais je dois dire aussi que j'étais conquis par Marie et Max, et donc je suis rentré en me disant, ah, ça, voilà, je suis heureux d'être dans ce tourbillon de malheur.
Antoine Guillaume, dernier mot.
Oui, mais là encore, je pense que le film aurait gagné peut-être à être plus radical encore, c'est-à-dire à aller vraiment vers la tristesse, l'émotion. Or, il se sent obligé quand même par moment de mettre ce côté cartoonesque dont je parlais avec le personnage de Pinky, qui est haut en couleur et qui mériterait un film à elle toute seule pour son histoire et son passé invraisemblable de révolutionnaire, d'amante, de danseuse, se faisant couper le doigt par un ventilateur, enfin des histoires folles, mais qui nous éloignent là encore peut-être de l'émotion première qui serait celle de cette tristesse, parce que c'est rare de voir un film d'animation qui travaille autant la tristesse et la douleur et les larmes. Il y a un plan très beau d'une larme comme ça qui coule sur une joue en stop motion. Ça, c'est vraiment très réussi, mais ces moments de poésie, c'est comme s'il s'en défiait lui-même en se disant de temps en temps il faut que j'en remette quand même une couche, soit de malheur, soit d'excentricité. Et moi, je trouve notamment le portrait qu'il fait de l'Australie, notamment ces déviances intégristes et un culte à la pomme qui est complètement fou, ou avec ses parents d'accueil naturistes et partousards aussi. C'est des choses qu'on voit peu, à vrai dire, dans le cinéma d'animation, mais c'est comme si le film se défiait en fait par moments de ses audaces et nous donnait des choses plus confortables en fait à voir et à vivre. Donc peut-être qu'il aurait fallu aller encore plus loin, mais ça aurait été un suicide commercial total. Mais ça aurait été intéressant.
Mémoire d'un escargot d'Adam Elliott. Et c'est l'heure du coup de cœur d'Antoine Guillot aujourd'hui.
Oui, alors vous allez me dire que j'ai une obsession pour Beyrouth, puisque la dernière fois que je vous avais fait un coup de cœur, c'était sur le Beyrouth fantôme de Hassan Salab. Retour à Beyrouth avec Le quatrième mur, adaptation par David Holofen du roman de Sorge Chalandon, suradapté de toutes les manières possibles, au théâtre, dans différentes versions, en bande dessinée. Mais là, c'est au cinéma, et c'est un film donc qui nous replonge dans le Beyrouth de 1982, où arrive sur place un metteur en scène de théâtre français qui a l'étrange idée de monter Antigone dans une ville en guerre avec, qui plus est, une distribution multiconfessionnelle. C'est-à-dire qu'il va avoir ce projet totalement utopique d'arrêter la guerre un moment et de faire jouer ensemble des maronites, des chiites, des sunnites, des druzes, des arméniens et tout ce que vous pouvez imaginer comme communauté qui crée ce pays compliqué. Et alors, c'est évidemment un film qu'on ne peut pas regarder sans d'abord connaître le tragique de l'histoire, puisqu'on est dans la tragédie antique. On sait qu'en 1982-1983, peu après, il va y avoir l'opération d'Israël qui va attaquer le Liban, les massacres de Sabra et Shatila, et tout ça est l'horizon terrible du film, parce qu'on sait qu'on ne peut pas y échapper. Et la grande question du film, c'est peut-on échapper à ça ? Voilà. Peut-on échapper au tragique de l'histoire ? Surtout maintenant qu'on regarde le film qui a été tourné en 2022, donc on est vraiment entre deux conflits au Liban, et qu'on sait ce qui se passe depuis. Donc c'est un film qui dialogue à la fois avec le passé et avec le présent sans l'avoir voulu, mais avec cette préscience quand même qu'au Liban, on est toujours entre deux guerres. Le tout est porté par un Laurent Lafitte dans le rôle du metteur en scène français, qui évite l'écueil justement du bon français qui arrive et qui va expliquer tout. En fait, il arrive, il n'y comprend rien, mais il vit quelque chose, et au moins il fait passer ce message que, bah, avant d'être le représentant d'une communauté, on est d'abord un être humain, un comédien, un acteur, et c'est peut-être ça le plus important.
C'est donc Le quatrième mur de David Holofan.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Fabrice Duvels continue d'ausculter, voire d'autopsier son pays. Après une trilogie ardennaise, le réalisateur belge sort ce qu'il présente comme le premier volet d'une nouvelle trilogie. Cette fois, l'action se situe à Charleroi, et pour cause, le dossier Mal d'Aurore, c'est le titre du film, s'attaque à un des traumatismes les plus douloureux de l'histoire récente belge, l'affaire du Trou. Duvels s'attache à montrer les erreurs, les échecs de l'enquête, les dysfonctionnements de la justice, la misère endémique d'une cité autrefois fleuron du charbon européen. Mais l'histoire se double aussi de l'obsession d'un jeune gendarme pour résoudre l'affaire jeune gendarme Paul Chartier, incarné ici par Anthony Bajon. On commence avec un avis rapide de l'un et de l'autre, Antoine Guillot.
Alors je dirais du film qui était, effectivement vous l'avez dit, c'est un film sur l'échec, l'impuissance, la frustration, un film qui est sous le signe du ratage permanent, mais qui est trop tiraillé entre des tendances et des ambitions contradictoires pour réussir. Donc un film raté sur l'échec, finalement c'est un c'est une tautologie qui est à explorer.
Thierry Chaise.
Et moi qui ne suis pas un fou du cinéma de Duvels, qui a tendance, on parlait avec le premier film, à en rajouter justement dans l'horreur et tout ça, je trouve que, en tous les cas, sur deux heures et demie, c'est tout ce que j'ai préféré de lui. Et je trouve que dans la dernière partie, il renoue avec quelque chose qui me gêne plus. Donc je suis d'accord sur le côté bancal, mais c'est pas ce mon Duvels préféré malgré tout.
On va écouter la bande-annonce du dossier Mal d'Aurore.
T'as vraiment une culotte, t'es con. Une vraie gueule de flic.
Si j'ai choisi cet uniforme, c'est pour faire bouger les choses. Je veux qu'on ramène la petite à leurs parents. Marcel de Dieu, c'est lui.
Il a déjà été condamné pour viol sur mineur. J'ai monté personnellement une opération pour en avoir le cœur net. L'opération Mal d'Aurore.
De Dieu aménage ses caves depuis 2 ans.
Mal d'Aurore est une opération de surveillance exclusivement. Vous allez lui coller au basque et le choper en flagrant délit. Mais pas avant.
Gendarmerie, ouvrez !
Voilà, vous avez une cave ici, vous pouvez me la montrer ? T'as rien entendu ?
Vous avez ignoré le cadre de la perquisition.
Je vous ai entendu, je suis pas fou.
Le dossier Mal d'Aurore de Fabrice Duvels. Antoine Guillot, film sur le... que vous avez qualifié de raté quasiment tout à l'heure.
C'est-à-dire que c'est un film qui est compliqué, comme la carrière de Fabrice Duvels, qui a commencé avec des films très glauques, très très sordides, là encore très très provocateurs, et puis qui a semblé dans ces dernières années vouloir un peu s'embourgeoiser avec des films comme Inexorable, qui étaient beaucoup plus polissés. Alors ce film-là vise manifestement à réparer un traumatisme qui est celui de l'affaire du Trou en Belgique, de l'interroger par la fiction, en se prévalant d'un certain nombre d'influences qui sont très contradictoires. Et on les retrouve dedans. Alors il y a les influences avouées, et celles plus évidentes, mais qui sont tues, qui font un film en fait qui est un peu de briques et de brocs sur tout ce qu'il voudrait faire. Alors il y a le côté, on va s'emparer comme Yves Boisset, influence revendiquée de la grande affaire politique judiciaire, et on va essayer d'en faire un thriller à message comme Boisset en faisait dans les années 70. On va essayer de faire l'histoire d'un flic seul contre tous, seul contre sa hiérarchie. Donc là, on sera le côté Alain Corneau, par exemple. Mais en même temps, on parle d'un tueur en série, donc on va sortir David Fincher, qui est sans doute le grand horizon du film, c'est Zodiac. Zodiac, c'était l'histoire de la traque infructueuse et inaboutie qui aboutissait à une immense frustration d'un tueur en série. Sauf que là, on sait que Dutroux, il est en prison, il a été condamné, et on n'a pas tout élucidé, sans doute, de l'affaire Dutroux, mais bon, voilà, les faits sont là. Donc, il y a encore un autre objectif qui est-ce que le cinéma peut réparer l'histoire? Donc, ça, c'est l'horizon Tarantino. Tous les derniers films de Tarantino, et notamment Influence revendiquée ou Once Upon a Time in Hollywood, on peut s'emparer de l'histoire et finalement, réaliser le fantasme de justice d'une société qui est très frustrée par la façon dont l'affaire Dutroux a été menée. Mais enfin, aboutir, réaliser ce fantasme, qu'est-ce que ça veut dire dans le cas de ce film? Ça veut dire, oui, il y a eu un complot général et toutes les élites sont mouillées, tout le monde est pourri, la justice, les hommes d'affaires, jusqu'au roi, on se demande à un moment, mais un plan comme ça sur le portrait du roi, la Belgique est déchirée, on va vous montrer un drapeau de la Belgique déchiré, donc c'est ça d'un côté, et puis de l'autre côté, comme la Vox Populi voulait la mort de Dutroux, et on voit ça régulièrement dans le film, ouais, vraiment, ces salauds, faudrait les buter. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va le buter. Voilà. Même si, en l'occurrence, l'homme est en prison, n'est pas libérable, et chaque fois qu'il demande à être libéré, on lui dit « Ben non, vous êtes quand même toujours un psychopathe extrêmement dangereux, vous allez rester en prison jusqu'au bout de vos jours. » Et résultat, le film part dans plein de directions très, très, très différentes. Une qui m'intéresse beaucoup, c'est le sort qu'il fait à la ville de Charleroi. Je trouve que les plus beaux plans du film sont ces plans sur l'architecture industrielle désolée de la ville, sur la Sambre là, qu'il traverse comme un fleuve de sang. Et ça, ce sont des moments très beau, mais avec ça, on va vouloir rajouter quelque chose sur les communautés immigrées d'origine italienne, en particulier sicilienne, du film, et là on va se dire qui l'a fait, tiens, on va aller chercher du côté de Cimino et de Voyage au bout de l'enfer, donc on va mettre une très très longue scène de mariage, suivie par une très très longue scène de fête, etc., pour se dire, vous voyez, moi je fais aussi la Cimino, donc en fait tout part dans tous les sens, sauf qu'au bout du compte ressurgit le vrai Fabrice Duvel, c'est-à-dire celui qui aime le crapoteux, un peu le sordide, donc on aura des touffes de cheveux arrachées, des corps jetés au cochon, toutes sortes de démembrements, des personnages complètement gothiques, pour ne pas dire grotesques, comme celui que joue Laurent Lucas avec son bandeau sur l'œil et sa gueule ravagée, ou Jackie Berroyer, qui est toujours excellent, dans son rôle de grand ordonnateur de l'horreur. Et tout ça pour donner au titre un titre, le Mal d'Aurore, qui renvoie évidemment au chant de Mal d'Aurore à l'autre et à mon, pour se dire, on va toucher à une métaphysique du mal, cette espèce de mal absolu qu'on ne peut pas atteindre. Et sauf que là, c'est l'échec absolu, parce que comme il est toujours dans la terre et dans le montrer quand même les choses les plus grotesques, des personnages qu'on croirait sortir de Massacre à la tronçonneuse, oui, autre référence encore. Donc là, tout est mélangé et il n'y a plus de mystère. C'est-à-dire que le mal est tellement incarné, est tellement sordide, tellement grotesque, tellement ridicule, même par moments, que la métaphysique, pour le coup, est complètement absente de ce film.
Thierry Chaise.
Oui, c'est vrai, c'est un peu ce qui me gêne, mais malgré tout, tant qu'il n'y a pas le crapoteux, je trouve qu'au moins il se sort des choses qu'il a pu faire jusque-là. Moi, j'aime beaucoup aussi son choix de comédien. Je trouve qu'Anthony Bajon, dans le rôle
de ce très, très bon.
Flic, est vraiment bon.
C'est assez inattendu, d'ailleurs.
Inattendu, et ça, c'est intéressant. Ouais. Et alors, c'est inattendu, mais ça pourrait être aussi à côté, ouais, parce que si c'est juste inattendu, on doit quand même le suivre pendant 2h30. Je trouve que ça fonctionne. Peut-être un peu moins quand il doit se bagarrer, quand on devient un revenge movie, mais ça, c'est la partie que j'aime moins. Mais au moins, il y a une idée. Voilà, c'est pas quelqu'un qui avait travaillé avec lui avant. Je trouve qu'il va chercher quelqu'un. Ce quelqu'un compose ce personnage dont on comprend bien, en fait, toutes les influences traversent le film. On a l'impression que tout ça lui traverse aussi la tête. Et qu'on le sent très bien. Je trouve que Sergi Lopez, qui représente le mal absolu, est aussi formidable. Mais puisqu'il est aussi formidable, on pouvait se permettre d'enlever un peu des couches, parce que dès qu'il paraît, je marche au plan à la Cimino, parce que je me dis, voilà, il y a quelque chose, en effet, on retrouve. De toute façon, il a dit, le film, je sais que je pouvais le faire quand j'ai vu, en effet, Once Upon a Time in Hollywood. Et à partir de là, on passe aussi certaines choses à Tarantino, on peut les passer à Fabrice Duvel, c'est pas une question, pourquoi pas essayer, mais je trouve que il va chercher chez l'autre, et quand ça revient à en effet au crapaud, je dis c'est dommage d'être allé, d'avoir voyagé dans autant de pays et finalement de revenir dans le sien qui est presque le moins intéressant de tout ce qu'il a exploré, même si c'est pas totalement abouti. Donc il se passe quand même en 2h30, on peut dire qu'il y a une traversée. Moi, je me suis pas ennuyé, par exemple. Je me disais, mais qu'est-ce que ça va être le pont suivant? Mais il y a une manière, en effet, d'en
après,
rajouter.
Le crapoteux dans l'histoire, il est présent.
Il est présent, oui, mais trop, justement, est-ce qu'on a besoin de... Voilà, il est présent, est-ce qu'il faut absolument tout marteler?
Oui, non, il y a du crapoteux en plus.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que, d'ailleurs, le film hésite beaucoup et se demande en permanence comment représenter la vraie horreur de l'affaire du trou et de ce film, qui est le sort fait à ses fillettes. Donc, il s'arrête toujours au seuil, ouais. Il va se dire, bon, qu'est-ce que je laisse imaginer, etc. On le sent très mal à l'aise là-dessus. Donc, c'est comme s'il se rassurait en mettant les choses qu'il sait déjà faire. Là, encore une fois, on arrache des cheveux à quelqu'un, on se fait bouffer par des cochons et tout ça, etc. Or, il me semble qu'il aurait choisi un axe plutôt que de mélanger tout ça. Le film aurait été beaucoup plus droit, y compris dans ce côté, crapoteux, comme on dit, un peu sordide et glauque. Il aurait pu le faire comme une grosse fable grotesque sur l'affaire du trou, comme Yann Bucquois l'aurait fait dans les années 80. Il ne choisit pas. Il ne choisit pas, donc c'est vrai qu'on est assez pris hein, par l'histoire, c'est assez efficace, ça se regarde vraiment très facilement, c'est très porté par Bajon en l'occurrence, mais on s'interroge quand même sans arrêt sur ce film qui n'est jamais là où il devrait être, ou enfin qui hésite toujours dans quelle direction il va aller, ce qui donne parfois des impressions de longueur par exemple, parce que on se dit bah, qui a fait ce film, combien sont-ils à l'avoir fait, etc.
Et Thierry Chaise, esthétiquement, c'est aussi très particulier quand même dans le traitement des images, du montage.
Oui, mais ça résume exactement tout ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y a aussi plein d'univers à l'intérieur de l'univers. Ouais. Mais parce que je pense qu'il y a aussi, tout en faisant passer pour la fiction, la volonté de rappeler qu'est-ce qu'il y a eu cette guerre des polices en Belgique. Et en fait, puisqu'il faut l'installer, ça prend du temps. Donc, et tout se retrouve en effet aussi dans la mise en scène. C'est un patchwork. Voilà.
Antoine ?
Moi, j'ai relevé un gag un peu discret, mais qui en dit beaucoup des guéguerres qu'il peut y avoir entre le cinéaste belge, qui va être le cinéaste belge. Il y a un collègue qui empêche beaucoup le personnage d'Anthony Bajon de progresser, qui lui dit non, on va pas regarder dans la cave, il n'y a rien d'intéressant, alors que les fillettes sont là enfermées. Eh bien, il s'appelle Dardenne.
Ah, je l'ai noté, c'est vrai.
Et c'est pas un hasard, à mon avis.
C'est certainement ça. Ben, merci beaucoup, Thierry Chaise, Antoine Guillot, d'être venu aujourd'hui dans les Midis de Culture. Fabrice Duvels et Béatrice Dalle, qui est également à l'affiche du film, seront les invités de François Angelier dans Mauvais Genre. C'est samedi à 20h sur France Culture, bien sûr. Et puis, vous animez un débat ce soir, Antoine Guillot, avec Arnaud Desplechin. Et c'est au Méliès de Montreuil pour la sortie de son film.
À 20h30.
Spectateur, voilà.